Other than.
Bonsoir tout le monde, bienvenue à votre émission culturelle Café sur les ondes de CKUT en ce vendredi 3 janvier 2021. Il est 18h et c'est Alex qui vous parle au micro depuis chez moi, donc toujours en mode studio à la maison. On espère que vous avez passé de belles fêtes malgré les circonstances pandémiques atténuantes et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très bonne année 2021, donc année qui commence de façon assez intense, pouvons-nous dire, hein, avec le prolongement du confinement, l'instauration d'un couvre-feu. Donc, à travers tout ça, on va essayer de garder le moral, peut-être en consommant plus de culture, en écoutant plus de musique, de films, de documentaires, en lisant plus de livres. Et donc, pour ça, l'équipe de Café va essayer de vous donner chaque semaine des suggestions durant les prochains mois. Pour l'émission d'aujourd'hui, moi, Julie et Ève Laurence allons vous présenter notre chanson préférée de l'année 2020. Aussi, par la suite, Esther va nous présenter, donc dans le cadre de la diffusion du message de conscientisation anti-racisme asiatique que CKUT diffuse depuis maintenant quelques semaines et dont nous vous avons parlé à quelques reprises à l'émission. Donc, Esther B s'est entretenue avec Ji Yu Lee et Mélodie Zhou. Elles prennent le temps d'analyser et d'explorer le contexte entourant ce projet. Et en trame de fond du message de solidarité, elles ont choisi le remix de la pièce Sergeys signée Be Kind par Needle and Gem. Donc tout de suite, je vais vous présenter mon top 1 de l'année 2020. Donc c'est l'artiste Backsquash dont je vous avais parlé il y a plusieurs mois lors de la parution de son album God Has Nothing to Do with This, Leave Him Out of It. Depuis, Backsquash a remporté le prix Polaris, devenant la première personne trans à remporter ce prix. Et à Café, nous la félicitons et continuons de suivre sa carrière de près. Et sans plus tarder, vous allez entendre la chanson God Has Nothing to Do with This, Leave Him Out of It, suivie de la chanson Redemption. Bonne écoute!
My heart and hope to die. I wish blood on my enemies. For any penance I'm leaving out of this sentence. And it's not revenge if it evens out. The demon's out. I won't pretend I'm no screaming loud at the people now. I'm out the vodka, how I deal with insecurity. The purity is how I see abusers flinging moves at me. It takes me back to almost jumping off the ceiling while pumped on all the pills and almost lunging off the building. Mama keep telling me to ask the Lord for forgiveness. I want war with these bitches. I want corpses and weapons in the morgue. I'm the story that Dr. Crawley envisioned. I want horrible things if there's no recourse for my sin. The caution to win. I show no remorse in the end. I'm not for amends. I'm cautious from the awful events. It's awful again. But this time before I do it, I clean my fucking room so when they find me, I'll be.
I know shit has changed a lot with the way that I am, the way that I plan for it to go this way, understand. Feel like you lost a son, but you gained a daughter. You think it's plain and awkward, you think I'm pain and sorrow. You think I broke your heart, I think it's for survival. I bought you what I know, it's go do or die, so fortune is final. Don't do what I don't, spend your whole life regretting when this shit is pathetic. I wish I started sooner. Fuck the hallelujahs, fuck these fucking boomers, fuck these fucking losers, fuck these motherfucking fuckers and the fucking two trucks, fuck these fuck abusers, and fuck the fucking rumors, fuck it. And I would dare anyone to face me up head first when I'm laying these drums. The pain that I've done compared to the pain that's I've done is weighing the tongue, it's heavy, I don't wait for no one.
The Lord has put in my spirit, and really all the way back in the last year, it took me a year of working on this material, studying it and researching it. I studied it from a medical perspective, that when we don't forgive, we pay a toll in our bodies, our physical health, our well-being goes down, insomnia, eating disorder, stress, indigestion, a lot of things that you haven't been able to get prayer for, haven't been able to get breakthroughs through medicine. It's when you release people that you have unforgiveness against and guilt, even if it's against yourself. Some of you have trouble forgiving yourself. When you release all of that, it opens up medical consequences. It opens up emotional consequences. You have peace and joy and deliverance, and greater still, it releases supernatural blessings in your life. The book gets into how to do it. We know we're supposed to do it. We know we're supposed to do it. We want to do it. But what do you do when your feelings about an issue won't go away?
Bonsoir, vous êtes sur les ondes de CKUT 83 FM à l'émission Café. Pour mon coup de cœur de l'année 2020, c'est un choix assez difficile, mais je suis allée pour un classique. Donc j'ai choisi le morceau Géranium de Racine, donc sur l'album Quelque chose tombe. Donc Racine, un artiste qui donne dans l'ambient expérimental assez intense. Moi, ça me rappelle beaucoup Tim Hacker. Donc, ce sera un album qui m'aura accompagné tout au long de la pandémie, donc qui est sorti en février 2020. Donc, le morceau Géranium de Racine. Bonne écoute. Thank you.
raison de pandémie, CKUT a décidé de rapporter Indéfinim, notre campagne de financement annuelle. Mais nous apprécions toujours les dons pour soutenir nos opérations durant la fermeture. Le moment présent exige des nouvelles approches créatives, et des douzaines d'animateurs et animatrices ont relevé le défi en maîtrisant les logiciels pour vous livrer les émissions de très haute qualité. Nous sommes conscientes que CKUT 90.3 FM vous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous faisons appel à votre générosité. Si votre situation vous le permet, nous vous invitons de vous rendre sur notre site web ckut.ca et de faire un don en appuyant sur le bouton vert de donation ou d'envoyer un chèque par la poste à Radio CKUT 3647 rue Université H3A2B3 Montréal, Québec. Merci.
Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Informations sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec.
Bonjour à tous et re-bienvenue sur Café. Nous poursuivons cette émission un peu spéciale sur Café. C'est la dernière émission et j'en profite pour souligner que depuis maintenant 3 semaines, 1 mois, nous jouons ce message de solidarité avec les Asiatiques face à cette montée d'agressions, mini-agressions et tout, qui s'est un peu exacerbée depuis la COVID. Et je suis très contente de rencontrer 2 autres personnes aujourd'hui en petite table ronde. Si je prononce mal, dites-le-moi, Mélodie Tsu et Jiyu Li. Donc, bienvenue sur Café. Les deux personnes ici sont étudiantes à McGill. Donc, Mélodie, je ne la connaissais pas et c'est Kerry que vous avez pu entendre tout à l'heure qui a fait le pont entre elle et moi. Et s'il vous plaît, si vous pouviez vous introduire, Mélodie et Jiyu.
Okay. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mélodie. Présentement, je suis une étudiante à l'Université de McGill en histoire de l'art et en développement international. Alors, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Merci de m'inviter. Alors, ce projet de anti-Asian racisme, c'est grâce à toute l'équipe d'artistes et puis d'autres jeunes à Montréal qui a monté ça ensemble. Alors, je suis vraiment contente de pouvoir participer et à contribuer à ce projet.
Bonjour, moi je m'appelle Jiyu Li et comme Mélodie, je suis étudiante à McGill en psychologie et en linguistique. Donc moi, je fais seulement partie du projet parce que, en fait, Mélodie, elle m'a texté, elle m'a dit « Est-ce que tu voudrais lire ce message que j'ai écrit? » Puis c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, donc j'étais vraiment très contente que Mélodie m'en fasse part et m'invite à participer à ce projet. Et oui, merci de m'avoir sur votre émission.
Merci beaucoup. Donc, je voulais savoir un peu, Mélodie, lorsque tu as reçu des nouvelles de Kerry concernant la situation, concernant moi qui cherchais quelqu'un à écrire un script sur la situation. Je pense que Kerry, elle a très bien tombé puisque le script, il était vraiment très, très bon et c'est un peu comme si tu avais fait ça un peu toute ta vie puisque c'est vraiment comme les paragraphes, c'est super bien, structuré et ça touche des points que évidemment essentiels pour votre communauté. Tu peux me parler comment tu as réagi et puis que... Et ouais, comment...
Parfait. En fait, je ne m'attendais pas qu'il va avoir ce projet-là, surtout dans un radio montréalais qui va être broadcast à toute Montréal, parce que vu que la représentation asiatique, on ne voit pas trop dans les médias québécois. surtout dans les western médias. Alors, lorsque Carrie m'a introduit ce projet, j'étais surprise et aussi j'étais vraiment contente que quelqu'un comme vous, Esther, ou le radio, Cooking Radio, présente ce projet à nous pour qu'on ait une opportunité de dire ce qu'on pense et de dire au public qu'est-ce qui se passe depuis le COVID à Montréal avec les Asiatiques. Alors, étant donné que je suis une Canadienne et une Asiatique qui a grandi ici au Québec, alors pour moi, c'était plus facile à comprendre toute la situation, aussi de mettre mes pensées et mes sentiments par rapport au sujet de racisme anti-asiatique qui se déroule depuis toujours au Québec, mais plus enfoncé depuis le COVID-19. Alors pour moi, c'était facile d'écrire mes pensées en mots et de dire ce qui devait être changé.
Oui, puisque c'est, de ton point de vue, t'as pas mal grandi ici. Oui. Donc, il y a un point de vue francophone, canadien, taïwanais, qui est assez riche, quoi. Et toi, Jiyu, est-ce que tu as un bagage un peu similaire? Tu as rencontré Mélodie au high school, au secondaire, mm-hmm. et tu es aussi à McGill, c'est cool. Mm-hmm. Donc, est-ce que ce message-là, c'est ça, comment tu te sens face à ce message-là? Tu l'as bien endossé puisque tu prêtes ta voix à l'une des versions.
Oui. Donc, tout comme il a dit, j'ai grandi au Québec, à Montréal, ici. Puis, j'ai une forte appartenance à la culture canadienne, québécoise, mais aussi à ma culture chinoise. Et puis, dans le fond, en grandissant, j'ai toujours trouvé qu'il y avait cette disparité-là, comme je me vois être toutes les trois, appartenir à toutes les trois cultures. Mais en même temps, en pratique, des fois, il y avait des disparités entre ce que je croyais que j'allais vivre et ce que je vivais. Et dans le fond, je trouve que c'est ce qu'on vit aussi en temps de COVID. C'est qu'on est on est de la communauté asiatique québécoise. Donc, techniquement, on n'a rien à faire avec le fait que, dans le fond, le virus vient de la Chine. Mais on est traité comme si c'était nous qui l'avions amené, comme si... Des fois c'est comme ça qu'on ressent. Et je trouve que c'est un message qui est important parce qu'avec le virus, il y a beaucoup de peur qui est traduit en gens qui pointent du doigt certaines communautés. Puis c'est quelque chose qui malheureusement arrive et c'est bien qu'on en parle. Et donc c'est aussi rattaché à d'autres choses en termes de notre identité, je trouve.
Donc, c'est ça, malheureusement... Il faut un drame, une pandémie pour faire relever des aspects culturels, malheureusement, des blessures qui sont déjà là, puisque tous mes amis asiatiques me parlent de bien avant le COVID, des microagressions qu'elles sont victimes et tout. Et c'est vraiment dommage que pour parler culture, il faut des événements comme ça. Et je considère que notre approche critique dans notre... j'ai le mot en anglais comme critical thinker. Notre approche de la vie de tous les jours en tant que critical thinker à l'université ou dans notre métier, je pense que ça nous apporte une force, que ce soit l'histoire de l'art, oui, la sociologie, la linguistique, ça nous apporte un bagage pour justement culturel, pour contrer les inégalités et nous pousser à l'action politique et activiste. Comme j'en parlais avec Yvetta et Carrie, pas nécessairement l'activiste qu'on voit dans la rue, mais l'activiste, la pensée, être activement le critical thinker. Donc, qu'est-ce que dans votre vie de tous les jours, est-ce que j'ai l'impression que Mélodie, en écrivant un texte comme ça, tu es dans ta vie de tous les jours un critical thinker et vous êtes des étudiantes aussi. Donc, qu'est-ce que vous pensez de de votre bagage, justement votre bagage, vos spécialités d'études dans la vie de tous les jours, comment elles vous aident à vous protéger, à vous être un allié de votre communauté.
Donc, vous avez mentionné tantôt le racisme anti-asiatique, ça existe depuis longtemps. C'est juste à cause du COVID qu'on réalise ça dans des grands médias, que genre, que les mondes réalisent, ah, oh, ça arrive aussi à Montréal, ça arrive aussi à Québec, au Canada. Et c'est quelque chose qu'on doit changer, on doit acknowledge about it. Alors, depuis que je suis petite, j'ai expérimenté des actions discriminatoires et d'autres choses. Et pour moi, je pensais que c'était normal, vu que je me sens canadienne, mais vu que je ne ressens pas, vu que je ressemble à vu que je suis une Asiatique, je ne peux pas appartenir je peux pas être appartenir aux Canadiens ou aux Québécois à 100%. Ça, j'ai compris dès que je suis toute jeune. Puis en grandissant, en allant à des écoles ou à l'université, ça m'a appris à être, comme vous dites, être critical concernant à notre vie de tous les jours, à les politiques, à ce qui se passe tous les jours dans la société. Alors oui, aussi mes études, par exemple, art history, il faut être critical quand on examine une œuvre d'art pour comprendre l'historique derrière tout cela. Des fois, qu'est-ce qu'on voit, ce n'est pas vraiment ce qui le représente. Des fois, peut-être il y a des connotations négatives ou des histoires négatives. Par exemple, le history of slavery, on peut voir dans une œuvre d'art qui date du 17e siècle, par exemple. Alors, pour moi, c'était vraiment, comme mes études, pour moi, c'était plus facile de voir, de comprendre, de voir des différentes perceptions à une situation ou à un dessin, par exemple. Je ne sais pas si c'est clair.
Pour moi, je pense que mes études en psychologie ont été très, très intéressantes de deux manières. Donc, premièrement, je pense qu'il y avait il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les perceptions sociales, la psychologie sociale et les préjudices. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que, dans le fond, notre tendance à appliquer les stéréotypes et à les penser, dans le fond, ça vient un peu du fait que ça nous aidait à survivre il y a longtemps. Mais en ce moment, en connaissant, parce que ça nous permettait de prendre quelque chose qu'on a déjà vu et de se dire, OK, est-ce que ça s'applique dans cette situation? Est-ce que c'est quelque chose qui est généralisable? Donc, pour essayer de généraliser nos connaissances. Et ça, c'est vrai en termes des gens qu'on rencontrait également et les situations. Donc, c'était quelque chose qui nous aidait à survivre, mais je pense que c'était important pour moi d'apprendre ça et de se dire qu'on vit dans une société qui est extrêmement différente de ce qu'on vivait il y a des centaines d'années, des milliers d'années. Donc, c'est quelque chose que, malheureusement, qui est inné. Mais le travail qu'on doit faire, c'est vraiment de se dire que ça ne s'applique pas dans toutes les situations. Comme, oui, ça s'applique si, dans les situations, par exemple, les normes sociales qu'on se dit des fois, il y a des choses qui sont applicables de faire, de dire, OK, ça, c'est applicable ici. Peut-être que je pourrais, appliquer nos normes sociales de politesse quelque part d'autre, par exemple. Donc, ça peut être très bénéfique, mais il faut aussi se rendre compte et se dire que, donc, de penser critiquement, comme vous dites, et de se dire, de le reconnaître, de se dire, OK, il faut que je fasse attention parce que je vais réfléchir à mes actions, je vais dire, est-ce que c'est quelque chose qui semblerait automatique, mais je ne peux pas l'appliquer ici parce que, honnêtement, c'est plus applicable, c'est pas quelque chose qui est relevant. Et deuxièmement, je trouve que c'est aussi l'histoire de la psychologie a aussi a été influencée par les temps, par des mouvements pensés qui n'étaient pas toujours inclusifs pour tout le monde. Et dans le fond, même la recherche psychologique en ce moment s'est faite avec une population prédominamment western, riche, de classes socio-économiques qui ne sont pas diverses. Donc, c'est important de garder ça en tête, de se dire qu'on vit dans une période historique qui qui est peut-être pas, ben, qui est pas parfaite. Et aussi, l'histoire de la psychologie était aussi, il y avait du racisme, il y avait du sexisme, il y avait beaucoup de préjugés qui a aussi teint la psychologie. Donc, de se dire que, les gens peut-être pensaient pas assez critiquement dans ce temps-là, et de se dire que ça peut nous affecter encore. De toujours être à l'affût du fait qu'on pourrait commettre des erreurs, et de juste vraiment s'assurer de double-check le fait que, genre, on fait pas d'erreurs qui peuvent blesser les gens ou qui peuvent être immorales.
Ouais, changer la mentalité des masses, c'est pas facile et ça demande un grand travail d'éducation. Changer les mentalités également et les habitudes et les mauvais plis, comme on pourrait dire, des masses. Et j'avais vu une publicité dans le Guardian qui passait sur Instagram sur justement antiraciste et at large, toutes les communautés. Et je me disais, il en faudrait une comme ça au Québec, une publicité où qu'on présente, qu'on dénonce les préjugés racistes. Mais il faut croire que notre société québécoise, elle est plus lente que d'autres sociétés, quoique petit à petit, je pense qu'il y a des pas vers un meilleur futur, mais c'est pas évident. Et ouais, par rapport à la psychologie, ouais, comme Mélodie, moi aussi j'ai fait l'histoire de l'art, et on parle souvent à l'école de la grande histoire de l'art, des gagnants, l'histoire avec un grand H ou l'histoire classique. Et c'est toujours comme... on étudie souvent, en tout cas dans ma génération. Et maintenant, heureusement, il y a eu un décloisonnement, ça a changé. Mais souvent, on a eu tendance à nous faire étudier les grands maîtres, les grands historiens de l'art et les grandes œuvres qui ont gagné en popularité. Peut-être qu'en psychologie, je ne sais pas si c'est la même chose, que vous étudiez les penseurs, les historiens ou les psychologues, les gagnants du Western qui ont privilégié. Comme nous, c'était ça en histoire de l'art, l'histoire de l'art des Italiens, des Français. C'était nos références. Est-ce que c'est comme ça aussi en psychologie?
Oui, donc en fait, en psychologie, j'ai pris un cours d'histoire de la psychologie. Et puis, oui, c'est principalement, ça a commencé dans le Western world un peu. Alors, oui, on en parle, mais je pense que c'est mon professeur, il disait très souvent, juste prenez ça avec un grain de sel, parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui étaient prédominantes dans les pensées européennes, dans les pensées Western, qui... ils n'ont pas fait du travail parfait, ça c'est sûr. Et puis de garder ça en tête, de se dire, si, oui, en termes de recherche, oui, ça a fait avancer la psychologie, mais peut-être que si ce ne serait pas acceptable de ces temps-ci, ça ne serait pas... C'est sûr que c'est des choses qu'on essaie aussi de rectifier en psychologie, de se dire, maintenant, on a des normes éthiques qui sont plus rigoureuses qu'avant. Puis, je pense que, oui, on apprend beaucoup de ce qui est Western, de ce qui est... Mais on ne glorifie pas, par contre. Et je trouve que c'est ce qui est bien. C'est bien d'apprendre ça, et en apprenant de se dire qu'il y avait deux côtés à la médaille. Donc, ce n'était pas juste du positif.
Intéressant. Donc, le temps s'achève. Et Mélodie, est-ce que tu as un mot de la fin à nous proposer?
Je suis vraiment contente de pouvoir être ici aujourd'hui, de discuter les sujets sensibles, les sujets historiques qui existent depuis longtemps avec vous. Alors, j'espère que ce projet va faire réaliser au public l'importance sur le acknowledgement des choses qui se passent dans la société, comme le racisme contre les Asiatiques. Alors, je pense que la sensibilisation, c'est une première pas important de faire. C'est sûr que ça va prendre du temps pour que tout le monde soit d'accord avec ce qu'on dit ou comprendre ce qu'on dit, mais juste avoir une plateforme de pouvoir sensibiliser les gens sur les messages qu'on veut annoncer. C'est déjà un premier pas super important et c'est vraiment apprécié de pouvoir faire cela à Montréal, dans mon communauté et avec mes amis.
Ah, merci beaucoup. Merci de votre participation. Et puis, on va pouvoir garder contact sur le futur, si le message pourra être partagé aussi à l'extérieur du Québec. Merci beaucoup de votre
présence
à Café.
Merci à vous.
Depuis le début de la pandémie COVID-19, nous avons connu une augmentation du racisme anti-asiatique et de la xénophobie sélective envers les communautés asiatiques à Montréal, au Canada et partout ailleurs dans le monde. L'organisme Chinese Canadian National Council a noté que plus de 600 incidents de racisme anti-asiatique ont été recensés depuis le début de la pandémie à Vancouver, à Toronto, à Montréal, à Calgary et à Ottawa. Selon le rapport, 65% des incidents consistaient en harcèlement verbal et que 60% touchaient des femmes. Ensemble, promouvons la tolérance et contrôlons les discours de haine. Apprenons à reconnaître et à dénoncer les actes racistes et discriminatoires, les agressions verbales et physiques en public et en ligne contre les Asiatiques et autres minorités visibles. Et maintenant, écoutons ensemble un court discours de sensibilisation anti-asiatique écrit par une étudiante taïwanaise canadienne de l'Université McGill avec l'aide d'un groupe d'amis, artistes et étudiants à Montréal.
L'épidémie mondiale de la COVID-19 a affecté les vies de chacun de différentes manières. Elle a également attiré notre attention sur l'intensification du racisme systémique et de la xénophobie sélective envers nos amis racisés dans notre société canadienne. Il est compréhensible que chacun d'entre nous se sente anxieux face à cette maladie dangereuse. Cependant, ce sentiment d'angoisse ne nous donne pas le droit de commettre des crimes de haine et de discriminer nos amis asiatiques, noirs, autochtones et autres personnes racisées. Il n'est pas acceptable d'associer la maladie COVID-19 aux Asiatiques, en particulier à ceux d'origine chinoise. Il n'est pas acceptable de commettre des abus physiques et psychologiques à l'égard des personnes racisées. Il n'est pas acceptable de vandaliser des entreprises appartenant à des Asiatiques et à d'autres marginaux. Nous devons arrêter de normaliser et cesser d'accepter les comportements racistes et les discours de haine à l'endroit de toute communauté racisée. Au contraire, pendant cette crise d'épidémie mondiale, nous devons ensemble nous éduquer et comprendre les concepts de race, de racisme systémique et de la justice raciale au Canada et ailleurs. Souvenons-nous, malgré qui et où nous sommes tous humains. Nous devons apprendre à nous tenir ensemble en tant que citoyens du monde pour une communauté plus saine, plus sûre et plus heureuse.
sound.
C K K
U
T T 90.3 FM.
Another reliable
communication du virus, le Québec doit se remettre sur pause. C'est pourquoi, à nouveau, nous devons rester à la maison et éviter les déplacements non essentiels. Les rassemblements sont interdits en zone rouge, à éviter en zone orange, et il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base. Pour freiner le virus, remettons-nous sur pause. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
La 7 p.m. y usted está escuchando Listening to Latin America por CKUT 90.3. En esta edición de programas tenemos a un invitado muy, muy especial de Guate, de Guatemala, Luis Alfonso, a.k.a. Huicho, que está el día de hoy aquí con nosotros para hablarnos un poco acerca de su recorrido reciente. Reciente, nuevo, como podcaster, como locutor en Guatemala. ¿Cómo estás, Luis Alfonso?
Hola, súper, súper, muy contento de estar con ustedes. Bonito esto de la tecnología que nos permite conectarnos ya a miles y miles de kilómetros y ahora con el internet, pues, poder estar cada vez más cerca. Me encuentro súper bien, muy contento de estar con ustedes, poder conocerlos, saber que, pues, podemos conectar y platicar un poquito de todo acá desde Guate. Compartir con toda la gente que nos está escuchando, ¿no?
Así es, y nosotros estamos, como ya te dijimos, encantados de tenerte. Tenemos también, ayudándonos aquí en el crew, a la famosísima Juliana.
Hola, ¿qué tal? Siempre es un gusto volver a Listening to Latin America.
Y también tenemos a la Prezi, Jenny.
Hola, buenas noches.